le magazine des Nations Unies.
Assassinat de deux experts de l'ONU dans les Kasaï, New York, diligence ses propres investigations. Les conclusions sont attendues d'ici fin juillet 2017. L'annonce faite par le porte-parole du secrétaire général des Nations Unies a été relayée par la MONUSCO. Et puis la crise dans le Grand Kasaï en voie d'en entraîner une autre. Environ 400 000 enfants menacés par la malnutrition aiguë dans la région. L'UNICEF lance un cri d'alarme et se mobilise pour venir au secours des milliers d'enfants malnutris. Les détails dans un instant. Comment briser le tabou des menstruations ou règles dans les milieux de la vie de l'adolescente? L'UNICEF et ses partenaires en campagne de sensibilisation, et ce, à l'occasion de la Journée internationale de l'hygiène menstruelle, célébrée le 28 mai. Une spécialiste de cette agence nous en dira plus dans quelques instants. Enfin, écoutez ceci.
Mais permettez-moi aujourd'hui de commencer avec du lingala. Mbote, mbote mingi, mbote nabino.
Cette voix, je vous invite à la découvrir dans la rubrique Portrait de cette émission. Voilà tout pour le sommaire.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Bonjour à tous et merci de suivre le magazine des Nations Unies présenté par Tina Salama. Nous le disions, une commission d'enquête des Nations Unies est à pied d'œuvre pour faire la lumière sur l'assassinat des deux experts onusiens dans le Kasaï. Les conclusions de cette enquête devraient être déposées d'ici fin juillet prochain au siège de l'ONU. Directeur de l'information publique et porte-parole de la MONUSCO, Charles-Antoine Bambara l'a annoncé mercredi dernier au cours de la conférence de presse des Nations Unies à Kinshasa. Suivez-le plus tôt dans ses propos recueillis par Honoré Missenga Kalala.
Au niveau des Nations Unies, ce qui est clair, c'est qu'une commission d'enquête de l'ONU est en place et nous attendons les conclusions de cette commission d'enquête des Nations Unies. Comme l'a dit hier le porte-parole du secrétaire général, M. Stéphane Dujarric, nous attendons les conclusions de cette enquête d'ici fin juillet. Et donc, ce sera clair, c'est sûr que cette enquête du siège des Nations Unies va essayer de prendre en compte l'ensemble des indices et peut-être d'autres qui sait par rapport à ce travail qui a déjà été lancé sur le terrain. Et donc, nous avons notre propre enquête qui se poursuit et on va essayer de vous, d'ici fin juillet, lorsque ce rapport sera rendu public, nous allons vous rapporter les grandes lignes de ce rapport-là.
Autre fait d'actualité de la semaine, la première matrice de comptabilité sociale de la RDC a été lancée jeudi à Kinshasa, œuvre de l'Institut National de la Statistique, INS. Ce document a été réalisé grâce à l'appui technique et financier du programme des Nations Unies pour le Développement, le PNUD. Les détails avec Honoré Missenga Kalala.
C'est un document de l'exercice 2013 que le ministre d'État et ministre du Plan a lancé mercredi dernier à Kinshasa devant des participants venus notamment de diverses institutions publiques et des partenaires techniques et financiers. Il comporte 225 comptes de diverses catégories, dont 41 portent sur les activités productrices. Le ministre Modeste Bahati en donne ici l'avantage et l'intérêt.
Vous le savez que les compagnies d'assurance ont leur plan comptable, les banques ont leur plan comptable, les entreprises en général ont leur plan comptable. Ainsi donc, nous avons là un outil pour la comptabilité nationale et l'avantage que nous avons, c'est que c'est un outil qui est tiré des expériences cumulées dans le passé et en partant de l'exercice 2013, eh bien, il y a donc une nouvelle nomenclature et dans la brochure qui vient d'être publiée, on explique chaque compte ainsi que son fonctionnement. D'où tout l'intérêt du lancement de la matrice de comptabilité sociale.
La mise en œuvre de cette première matrice de comptabilité sociale a été construite avec l'appui technique et financier du PNUD. Madame Priya Gajraj, directrice pays de cette agence onusienne en RDC, précise à quoi ce document va servir.
Cette matrice servira de base de données pour les modèles d'analyse des impacts des politiques économiques et des répercussions directes et indirectes des dépenses publiques. Ce nouvel outil facilitera aussi une approche moderne de budgétisation axée sur les résultats préconisés par les Nations Unies pour l'atteinte des objectifs de développement durable auxquels le pays a adhéré en 2015.
Pour la directrice pays du PNUD, la République démocratique du Congo ne pourra émerger à l'horizon 2030 sans un système d'information fiable et sans outils efficaces d'analyse économique.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
La célébration de la journée internationale de l'hygiène menstruelle le 28 mai de chaque année est une opportunité pour briser le tabou sur les menstruations, appelées aussi règles, mais également sensibiliser parents, adolescents et adolescentes, aussi les enseignants. Madame Julie Aupriot, spécialiste suivi et évaluation à la section eau et assainissement à l'UNICEF, évoque la problématique dans cette interview qu'elle a accordée à Jean-Pierre Elali Coco. Suivez.
Madame Julie Aupriot, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste suivi et évaluation de la section eau et assainissement à l'UNICEF. Nous allons parler avec vous de la journée internationale de l'hygiène menstruelle. Et lorsqu'on parle des menstruels, on parle plutôt de menstrues ici en RDC. Madame, qu'est-ce que c'est les menstrues ou règles généralement?
Les règles ou les menstrues ou les périodes, selon comment on les appelle, c'est un phénomène absolument naturel qui fait partie intégrante de la vie humaine et de la vie de toutes les femmes et de toutes les adolescentes. C'est un sujet absolument universel. On sait aujourd'hui qu'à l'échelle mondiale, on a environ 52% de la population féminine qui est en âge de procréer. Ça veut dire que toutes ces femmes-là ou toutes ces jeunes femmes-là ont leurs règles, pour la plupart d'entre elles, chaque mois entre 2 et 7 jours. Donc ça représente un nombre de jours passés dans cette situation absolument importante.
Et les menstrues ou menstruations, communément appelées ici règles, sont dans des familles africaines un sujet tabou. Et pourquoi, madame, a-t-on choisi toute une journée consacrée aux menstrues?
Vous avez raison, en fait, le 28 mai depuis 3 ans est maintenant la journée internationale ou mondiale de l'hygiène menstruelle. C'est ce genre de grande journée, c'est l'occasion de relancer un dialogue, de faire de la sensibilisation autour de la question de l'hygiène menstruelle. C'est très important pour commencer à parler franchement de ce genre de sujet.
En Afrique, c'est un tabou.
En Afrique, c'est un tabou, mais je crois que c'est pas seulement en Afrique. Dans de très nombreux pays, c'est un tabou. Et effectivement, on constate que c'est un véritable tabou social et que encore beaucoup de jeunes filles ou de femmes, lorsqu'elles ont leurs règles, par exemple en RDC, certaines familles vous diront que oui, jeunes filles diront que maman m'empêche de préparer le foufou quand on a les règles, les garçons ne veulent pas vous approcher, etc. Donc on ressent une certaine stigmatisation, discrimination autour de ce sujet-là qui sont mal compris, pour lesquels les jeunes filles ont souvent assez peu d'informations. Et l'objectif de cette journée, c'est de rompre le silence et d'engager le dialogue.
Donc il faut briser ces tabous.
Absolument.
Madame, comment peut-on gérer l'hygiène menstruelle au niveau de la famille, par exemple, ou même au niveau de l'école, et même dans les centres de santé, effectivement? Et comment est-ce qu'on peut gérer un problème de menstruation?
Je pense que je vais plutôt répondre au niveau de l'école, puisque l'UNICEF est engagé dans le programme École Assainie, qui donc accompagne les écoles dans l'amélioration de leurs conditions d'eau, d'hygiène et d'assainissement, et maintenant d'hygiène menstruelle. Et à l'école, je pense qu'on a plusieurs choses à faire. La première chose, c'est sensibiliser les enseignants, parce que souvent les enseignants sont pas très à l'aise et gênés pour parler de ces sujets-là. Accompagner également les élèves, donner les outils, les guides nécessaires pour qu'on puisse parler. Également fournir les kits d'hygiène minimum et aussi s'assurer que les infrastructures d'assainissement, donc les latrines qu'on met en place dans les écoles, elles respectent l'intimité et qu'on ait des latrines pour les filles et pour les garçons, que les filles puissent, lorsqu'elles sont dans leur période de règles, changer leur bande hygiénique en toute intimité, les jeter proprement, etc., et que ça ne les empêche pas d'aller à l'école.
Vous parlez des écoles et villages assainis. Est-ce que ces genres d'opérations, des dispositifs, c'est réel au niveau de certaines écoles de la RDC? Est-ce qu'on peut y trouver ces dispositifs pour aider les jeunes filles à s'accommoder lorsqu'elles ont des menstrues?
Ce qu'on constate, c'est que bien souvent, aujourd'hui, on n'a pas justement les conditions qui permettent aux jeunes filles de gérer leurs menstrues correctement. C'est là où l'UNICEF s'engage maintenant. Et d'ailleurs, on est en train d'accompagner le gouvernement congolais dans la réalisation d'une étude dans 3 provinces pour mieux comprendre quels sont les problèmes liés et les barrières liées à la gestion de l'hygiène menstruelle pour ensuite mieux pouvoir intégrer ça dans nos programmes.
Maintenant, parlons un peu de l'impact peuvent avoir donc les menstrues dans la vie de la jeune fille.
L'impact, il est très important et je pense que c'est vraiment essentiel de le rappeler. On sait qu'aujourd'hui, dans le monde, les filles s'absentent de l'école jusqu'à 4 jours par mois en raison de leur menstruation. Et on est sur des proportions à peu près identiques en Afrique. Ça veut dire que les menstruations, elles peuvent impacter la performance de la jeune fille à l'école et la performance performance de la jeune fille à l'école, c'est le développement de tout un pays derrière qu'on peut retarder parce que ces jeunes filles-là vont être absentes et donc moins bien suivre les cours, vont pour certaines quitter carrément l'école, etc. Donc on a un vrai intérêt à accompagner ce sujet-là qui est encore un peu tabou aujourd'hui pour permettre une meilleure performance de tous à l'école.
Mais il y a aussi un problème de culpabilité dans la société en général lorsque une jeune fille a des menstrues.
De culpabilité ou en tout cas elles se sentent souvent stigmatisées effectivement.
Stigmatisées, oui. Mm-hmm. Et donc là il faut aussi combattre ça.
Absolument, et je pense que ça passe par une sensibilisation de tous. Comme je disais tout à l'heure, à l'école, mais aussi dans les familles, que tout le monde se sente à l'aise de pouvoir parler librement de ce sujet-là.
Oui, Madame Julie Aubriot, dernière question. Les thèmes de cette année, c'est l'éducation. Quelles sont les activités que l'UNICEF et ses partenaires ont prévues dans la capitale Kinshasa et peut-être aussi dans des provinces?
On va faire plusieurs activités. Une grande activité de sensibilisation aura lieu vendredi 26 mai au complexe scolaire de l'EMFU 2, c'est dans la commune de Ndjili. Là, on va rassembler, donc on va faire de la sensibilisation auprès des enfants. On aura aussi l'accompagnement du ministère qui sera avec nous et tout un tas de journalistes et de radios, etc., qui seront présents pour couvrir ce sujet-là. Donc on va faire cette première activité de sensibilisation. Et ensuite, je le disais tout à l'heure, on lance une étude dans 3 provinces pour mieux comprendre...
Lesquelles ?
Une étude, alors, les provinces, c'est la province de Kinshasa, Nord Kivu et Haut-Katanga. Et l'idée, c'est de mieux d'avoir plus de connaissances sur le sujet, parce que ce sujet étant tabou, c'est aussi un sujet sur lequel on se rend compte qu'on a assez peu d'évidence, d'éléments concrets pour comprendre vraiment ce qu'il se passe autour de l'hygiène menstruelle à l'école. On va voir aussi quel est l'impact des menstrues ou des règles sur l'absentéisme des jeunes filles à l'école et donc sur leur performance. Et on va pouvoir en tirer des recommandations concrètes pour ensuite intégrer mieux ça dans notre programme mené en support du gouvernement congolais, donc le programme École Assainie.
Pour terminer, un petit message, un dernier mot à l'égard des adolescentes qui nous suivent, à l'égard des parents également et à l'égard des enseignants donc des écoles.
Je pense que le principal message à faire passer, c'est la sensibilisation et le fait de pouvoir en parler absolument librement. Et on dit que chaque jour peut être un bon jour si toutes les filles pouvaient aller à l'école pendant leur menstruation. Donc faisons une grande sensibilisation, parlons-en ouvertement pour que les performances des jeunes filles ne soient pas affectées par un sujet aussi naturel et aussi important et présent dans la vie de toutes les femmes.
Oui, Madame Julie Aubriot, je vous remercie.
Merci.
Et nous commençons cette page nouvelle par cette mission de la MONUSCO Kasaï, une importante délégation de la MONUSCO, à la tête de laquelle le représentant spécial adjoint de la mission, David Gressley, s'est rendu dans les Kasaï pour une mission du 25 au 27 mai 2017. Objectif de la mission, vérifier le respect des engagements de la MONUSCO ainsi que son déploiement dans les Kasaï. La délégation devrait rencontrer les autorités de la province du Kasaï central à Kananga avant de se rendre à Chikapa pour rencontrer le gouverneur du Kasaï, puis à Luisa, Chimbulu et à Bulungu, toujours dans le Kasaï central. Lutte contre Ebola. La réponse à l'épidémie s'organise avec le soutien des Nations Unies. À la date du 23 mai, un total de 48 cas suspects de la maladie à virus Ebola ont donc été enregistrés, dont 4 décès à ce jour. 2 cas ont été confirmés par l'Institut National de Recherche Biomédicale, INRB, selon Florence Marshall, coordonnatrice du groupe de communication des Nations Unies en RDC. Au 22 mai, 49 contacts sont sortis de la surveillance sur un total de 419 après 21 jours sans développer la maladie. Pour rappel, l'épidémie de la maladie à virus Ebola a été officiellement déclarée par le ministre de la Santé publique de la RDC le 12 mai dernier. L'épicentre de l'épidémie se trouve à Nambwa, dans la zone de santé de Likati. C'est dans la province du Bas-Uele, à plus ou moins 1300 km de Kinshasa. Enfin, sur le volet humanitaire, OCHA indique que 1,3 million de personnes ont été déplacées par la crise dans la région du Kasaï. La violence continue à se propager dans cette région et à affecter les populations civiles de 8 des 26 provinces que compte la RDC. La communauté humanitaire se heurte à d'importantes difficultés d'accès qui ralentissent l'acheminement de l'assistance aux personnes les plus vulnérables, compte tenu des altercations qui opposent les Kamuina Nsapu au FARDC, indique la source. Thank you.
magazine des Nations Unies, l'invité.
Notre invité de ce dimanche est le commissaire Awale Abdounassir, chef de la composante police de la MONUSCO. Le Maguen l'approchait à l'issue de la cérémonie de remise des médailles des Nations Unies à 180 UN Paul de l'unité égyptienne et des policiers individuels des 18 pays. Une cérémonie qui s'est déroulée mercredi dernier aux installations de la mission à Inkal, ici à Kinshasa. Le commissaire Awale répond aux questions de Jean-Pierre Elali Ikoko.
Commandant Awale Nassir, bonjour.
Oui, bonjour.
Nous venons d'assister à la cérémonie des remises des médailles, décoration de médailles aux différentes unités de la MONUSCO. Quel sens vous donnez à cette manifestation, mon commandant?
D'abord, c'est une journée mémorable hein, pour les collègues ici présents qui ont été décorés. Il s'agit de la remise de la médaille des Nations Unies aux collègues qui ont travaillé dans la mission de la police des Nations Unies ici en RDC, basée à Kinshasa. Et également, comme vous avez constaté, il y a l'unité FPU égyptienne qui est composée de 180 policiers, mais également des policiers individuels issus de 18 pays. Contributeurs. C'est quelque chose qui est très important pour les policiers qui ont quitté leur pays, leur famille, pour venir aider les Nations Unies, particulièrement la police MONUSCO. Donc c'est un honneur pour nous, qui commandons, qui faisons partie de l'un des chefs de la mission, de le remercier. De le remercier eux, mais également leur pays qui a bien voulu accepter de se séparer ces vaillants policiers pour mettre à la disposition des Nations Unies ici. Donc c'est une occasion encore de réitérer l'engagement de tous pour aider la RDC de sortir de cette crise-là.
Justement, nous, les pays approchent, si on les veut bien, les élections, la période cruciale électorale. Qu'est-ce qu'on peut attendre de la police de la MONUSCO dans le cadre du processus électoral en République démocratique du Congo? Je veux parler de l'encadrement de ces processus électoraux.
Alors, la police des Nations Unies n'a pas un mandat particulier. Hein. La police des Nations Unies fait partie intégrante de la MONUSCO, qui a reçu un mandat du Conseil de sécurité, qui est bien précis. Hein, concernant particulièrement l'appui sur le processus électoral. Et bien entendu, la police MONUSCO jouera son rôle qu'en termes au sein de la mission, mais également en termes d'appui de la PNC, en matière de formation, d'encadrement, de monitoring. C'est quelque chose qu'on a déjà fait, mais on le fera encore. Donc ça fait partie de notre travail. Et raison pour laquelle on est venu dans ce pays, pour aider ce pays à sortir rapidement des difficultés pour qu'on puisse chacun retourner dans notre pays.
Commandant Awale, Radio Kapi vous remercie.
C'est moi qui vous remercie. Et encore une fois, c'est quelque chose de très important. Ce vecteur radio pour les Nations Unies, mais pour la MONUSCO en particulier, et pour vous encourager parce que vous faites beaucoup pour transmettre l'information.
Merci. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie.
La nouvelle de province nous conduit dans le Grand Kasaï. La crise causée par la milice Kamuina Nsapu a gravement empiété sur les programmes de santé au cours des derniers mois. Selon un communiqué de l'UNICEF, la rareté des produits agricoles et les déplacements des populations, notamment, mettent à risque de malnutrition sévère et aiguë presque 400 000 enfants dans cette partie du pays. Jean-Pierre Elali Koko nous en dit plus.
Selon l'UNICEF, de nombreuses infrastructures sanitaires ne sont plus opérationnelles dans les 5 provinces du Grand Kasaï en raison du conflit. C'est notamment dans la province du Kasaï central où plus du tiers des centres de santé ne sont plus opérationnels suite à des pillages et en raison des problèmes de sécurité pour le personnel ou du manque des fournitures médicale. Conséquence, les enfants sont privés des services essentiels et des médicaments. Autre chose qui expose les enfants à la crise, c'est le fait que l'agriculture est rendue difficile pour la population locale à cause de l'insécurité. À cela s'ajoute la difficulté d'approvisionnement en produits alimentaires et la rareté des produits de base. Par ailleurs, les déplacements ont obligé les familles à vivre dans des conditions d'hygiène ou d'assainissement inadéquates. Cette situation, selon l'UNICEF, ne vient qu'aggraver les tableaux déjà sombres de la situation des enfants dans les provinces du Kasaï. Maintenant, la priorité pour l'UNICEF au cours des prochaines semaines est de toucher des milliers d'enfants gravement malnutris, des enfants qui ne peuvent plus être soignés dans les centres de santé déjà détruits, explique Tadjouden Oyewale, représentant de l'UNICEF faisant fonction en RDC.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Suivez cette question posée au cours de la conférence de presse des Nations Unies, c'était le mercredi dernier, et bien évidemment, la réponse.
Nikezo Mouzani, africeco.ch. Je m'adresse particulièrement au confrère Charles. Il y a un proverbe africain qui dit, lorsque le morceau de viande peut être coupé par les dents ou par les mains, on fait appel au couteau. nous vous voyons défier par le gouvernement. On vous empêche même de vulgariser la campagne que vous avez lancée. C'est-à-dire que, bon, vous devez bien comprendre qu'est-ce qu'il faut faire exactement. Est-ce que vous allez prendre le couteau ou bien vous allez courber les chines, c'est fini.
Bon, je ne connaissais pas ce proverbe, mais merci de nous l'apprendre. Ce que je peux dire, c'est que je vois un peu à quoi vous faites allusion, mais l'activité justement à laquelle vous faites allusion portait sur l'explication effectivement du mandat de la MONUSCO, rien d'autre que ça. En réalité, ce mandat de la MONUSCO, comme vous le savez, est un mandat qui a été discuté, approuvé au Conseil de sécurité des Nations Unies en présence des représentants même du gouvernement congolais. Et donc, depuis la création de la MONUC, puis de la MONUSCO, régulièrement, lorsqu'un mandat est décidé par le Conseil, il y a des campagnes de sensibilisation autour de ce mandat. Et donc, nous n'avons fait que ce que nous faisons d'habitude. Et pour nous, ce qui est important, c'est que les populations congolaises doivent s'approprier donc de ce mandat. Et je crois que l'objectif aussi est partagé d'ailleurs au niveau du gouvernement. Cette campagne avait déjà commencé, c'est vrai, à Kinshasa, ici, on avait déjà fait une première séance, même dans les provinces. L'ensemble des représentants de l'information publique dans les différentes provinces avaient aussi commencé à vulgariser sur ce mandat. Nous allons continuer à travailler en étroite collaboration, bien entendu, avec les autorités gouvernementales ici, pour avoir un modus vivendi, afin de pouvoir continuer ce travail de sensibilisation autour de la résolution 2348, qui nous est demandé. Par qui? Par le Conseil de sécurité. Comme je l'ai dit, ce mandat a été adopté en présence même des représentants de l'État congolais et c'est un travail qui va continuer dans les prochaines semaines, très certainement. Nous vous tiendrons informés.
Magazine des Nations Unies. Portrait du jour.
Bonjour, il m'a été demandé de me présenter à vous, chers auditeurs de Radio Capi. Je me nomme Elisabeth Laure Ndjipo. Mon cœur est pris depuis plusieurs années maintenant et je suis là à Kinshasa depuis bientôt 7 mois maintenant en tant que directrice de Radio Capi. Qui est Elisabeth Laure Ndjipo? Derrière ce nom se cache une jeune dame camerounaise issue de la partie francophone du Cameroun, mais qui a exclusivement étudié en anglais. Ça veut dire que je suis parfaitement bilingue, je parle français et anglais, et je transporte en moi 2 cultures, je parle au total 6 langues, c'est-à-dire 4 autres langues africaines. Et qui suis-je exactement sur le plan intellectuel, professionnel? Oui, j'ai plusieurs casquettes, j'ai été journaliste pour le développement, j'ai travaillé dans la région de l'Afrique de l'Ouest, ensuite je suis passé comme humanitaire pour sauver des vies pendant des périodes de catastrophes naturelles. Et aujourd'hui, je suis avec vous à Kinshasa pour accompagner Radio Capi dans sa louable mission de contribuer à la stabilisation du pays. Ça veut dire quoi? C'est utiliser la radio, vous utiliser, parce que la radio c'est vous, vous les inconditionnels de Radio Capi, pour voir comment à travers ce dialogue nous allons contribuer à construire un lendemain meilleur pour le pays. Grosso modo, mes tâches quotidiennes, elles sont très variées. Il y en a qui me demandent, quand ils ont dans mon bureau, je suis seule, ils me disent, enfin vous êtes seule. C'est pour dire qu'en fait, mes journées sont très chargées. Je travaille entre le quartier général de la MONUSCO et le complexe UTEX Africa où est logé Radio Capi en ce moment. En journée, j'ai généralement plusieurs réunions, soit avec l'équipe de management de Radio Capi ou alors avec le management de la mission. Mon travail consiste principalement à contribuer à la coordination des différentes unités au niveau de Radio Capi, mais je prends un grand plaisir à écouter les émissions, à écouter les journaux comme vous d'ailleurs, mais avec un regard assez avisé. Je m'assure au quotidien que ma perception de ce qui passe à l'antenne au Capi est partagée avec tous les superviseurs et chefs d'équipe dans l'espoir que des corrections peuvent être portées le plus rapidement possible pour mieux servir les auditeurs du pays. mis à part cela, nous réfléchissons, hein, c'est pas un travail qui se limite seulement au niveau de la direction de Radio Capi, que je pilote, mais nous sommes en train de réfléchir aussi, en plus du train-train quotidien, comme je venais de le dire, nous réfléchissons sur comment faire de Radio Capi une radio qui va vivre, survivre et arriver à des dimensions incommensurables, après la MONUSCO, c'est-à-dire au niveau de Radio Capi, on parle plus de la pérennisation de Radio Capi. Des réflexions sont en cours dans ce sens-là. Et aussi accompagner le côté opérationnel des équipes. Vous savez très bien que Radio Capi ne se limite pas seulement à Kinshasa. Radio Capi, c'est à travers tout le pays. Donc comment faire travailler les secteurs et le desk central pour pouvoir réellement faire de la radio de proximité, de la radio pour le changement. On me demande aussi de vous dire, de partager avec vous ce que je fais pendant mon temps libre. Vous allez peut-être être surpris de l'apprendre. J'aime courir, j'aime jouer au tennis, j'aime nager et j'aime chanter. La nourriture, oui, bon, je dirais plutôt que j'ai un petit péché mignon. J'aime bien prendre des glaces. À la place d'autres qui pourraient peut-être aimer une cigarette, ce qui est d'ailleurs mauvais pour la santé, ou alors prendre une bonne bière bien fraîche, moi je préfère prendre une glace, avec une préférence pour la vanille et la fraise. Donc, les projets d'avenir pour Radio Capi et la MONUSCO, c'est comme je venais de vous le dire, c'est réellement travailler à la pérennisation de Radio Capi, nous assurer aussi que nous arrivons à satisfaire le peuple congolais. Parce que c'est d'abord pour le peuple congolais que Radio Capi existe. La MONUSCO nous donne les moyens pour pouvoir le faire et nous comptons sur vous également pour pouvoir le faire. Je ne partirai pas sans dire un bonjour en Lingala. J'espère que les prochaines fois je pourrai le faire en Kikongo, en Swahili et en Chiluba. Ça, je vous le promets. Mais permettez-moi aujourd'hui de commencer avec du Lingala. Mbote, mbote mingi, mbote nabino.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche, de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
Quelques rendez-vous de la semaine à retenir dans les calendriers des Nations Unies. Le 29 mai, c'est la journée internationale des casques bleus. Le 31 mai, c'est la journée mondiale sans tabac. Et enfin, le 1er juin, c'est la journée internationale des enfants. Et c'est déjà la fin de ce magazine des Nations Unies qui vous a été présenté par Tina Salama, la mise en onde André Mongou, à la coordination Jean-Pierre Elali Coco, à la réalisation et au reportage Honoré Missenga Kalala, sous la supervision de Martin Sebou-Jangwe. Merci à tous de nous avoir suivis. On se dit à très vite sur Radio Capi.